Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive et on va devoir l'affronter au mieux.
Une épidémie qui arrive, dit Emmanuel Macron en visite à la Pitié-Salpêtrière. Changement de vocabulaire au sommet de l'exécutif sur le coronavirus.
Faut-il s'attendre à une multiplication du nombre de cas sur le sol français? Une centaine d'hôpitaux mobilisés désormais.
Beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Le numéro vert du ministère de la Santé croule sous les appels. Nous y sommes ce soir.
Par mesure de prévention, on va vous demander de rester quelques jours chez vous.
Et inquiétude qui est aussi économique, panique sur les bourses mondiales aujourd'hui.
Londres, Francfort, New York, au-delà des 3% de pertes, à Paris, moins 3,3%, le CAC 40 est à 5 495 points.
Dans l'actualité aussi ce soir, le procès des époux Fillon, dans le vif du sujet, ça y est.
Le couple sur le grill pour justifier de la réalité du travail de Pénélope. Et puis, le siège de Roman Polanski au César sera vide. Le réalisateur annonce qu'il ne viendra pas pour éviter, dit-il, un tribunal d'opinion autoproclamé.
Je pense que Roman Polanski a raté le coche de MeToo, comme l'ensemble du cinéma français.
Et avec Anissa, on regarde donc la couleur du ciel.
Eh bien, le vent souffle très fort sur l'ensemble du pays actuellement, avec d'ailleurs une victime à Paris. Eh bien, demain, ce vent se calme, c'est une bonne nouvelle. Il se calme dans les terres, mais va continuer de souffler assez fort sur les côtes du Nord-Ouest. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Il n'y a lieu ni d'avoir peur, ni d'être négligent. Voilà le message ce soir du gouvernement, celui du Premier ministre. Le coronavirus au stade épidémique, ce scénario est maintenant annoncé comme probable. Il y a clairement un changement dans les mots, on va s'y arrêter. Une offensive sur le plan politique aussi, qui a commencé dès ce matin avec la visite impromptue du président de la République à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Claudia Bertram, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron a rencontré les médecins qui ont vu un patient mourir hier.
Oui, et le président a d'abord tenu à apporter son soutien au personnel hospitalier. Je sais que ça a beaucoup touché les équipes, leur a-t-il dit, avant de saluer leur mobilisation.
En commençant surtout par vous remercier et vous dire combien, non seulement je compte sur vous, et vous pouvez compter sur moi, mais combien aussi je crois que tous nos concitoyens comptent sur vous et savent reconnaître votre professionnalisme et la qualité des soins.
Accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran, le président a échangé avec les médecins. Il leur a demandé comment eux voyaient les choses. Il leur a posé beaucoup de questions en termes d'organisation. Et c'est bien d'épidémie dont ils ont parlé.
Je pense qu'il va y avoir une situation un peu à l'italienne. Un patient qui est décédé hier ici à la Pitié, plus le cas qui est hospitalisé à Amiens. C'est deux patients qui n'ont pas de lien avec la Chine. Donc ça veut dire que le virus circule déjà parmi nous.
On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. Ça suppose de s'organiser à chaque étape, sans doute différemment, et on va devoir l'affronter au mieux.
On a une épidémie qui arrive, déclare donc le chef de l'État. Un médecin a aussi profité de cet échange pour interpeller le président sur la crise de l'hôpital public. Sans injection de moyens rapides, nous ne pourrons pas faire face à ce genre de crise, a-t-il alerté. Emmanuel Macron a dit entendre leur demande de moyens.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1, et sur cet échange dont vous parliez sur la crise de l'hôpital, on l'entendra dans le journal de 19h.
Et on y reviendra également avec mon invité à 18h20. On retient ces mots. On a devant nous une épidémie, en tout cas, qui arrive. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui a changé, là, en quelques heures?
Alors, ce qui a changé, c'est que, justement, les heures et les jours passent et on n'arrive pas à retrouver le patient zéro qui a contaminé deux personnes dans les Hauts-de-France. Donc, maintenant, le virus se transmet entre des gens qui n'ont aucun lien avec l'Italie, la Chine ou les autres foyers de la maladie. Ce virus n'est pas circonscrit. Alors, ce ne sera pas forcément une explosion de cas, mais une multiplication. Actuellement, la France est au stade 1 de l'épidémie, sur une échelle qui en compte 3. Nous passerions au stade 2 si on voyait apparaître des foyers du virus dans plusieurs régions de France, des grappes de cas un peu comme en Italie. Et puis le stade 3, là, c'est l'épidémie officiellement déclarée, c'est-à-dire que le virus n'est plus sous contrôle, il ne peut plus être contenu localement par des mesures de confinement ou de quarantaine. Ça n'est pas tant le nombre que le caractère incontrôlé. L'autre donnée, c'est que la Chine n'est plus depuis quelques jours l'unique foyer mondial de coronavirus. Il est présent désormais dans 50 pays sur les 5 continents. Donc, avec les échanges, les voyages, le risque de contagion est un peu plus élevé.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, le bilan donc en France, 18 cas avérés, dont 2 morts, 4 personnes toujours hospitalisées.
Et vous êtes très nombreux à vous poser beaucoup de questions ce soir sur ce virus. Nous sommes avec les conseillers du ministère de la Santé mobilisés pour répondre aux inquiétudes.
Le numéro vert qui a été mis en place au début du mois croule sous les appels. 26 000 hier, un record. Hélène Terzian, vous êtes sur ce site, sur cette plateforme téléphonique. Le téléphone continue de sonner beaucoup aujourd'hui.
Oui, je vous le confirme, Sébastien, tous les conseillers que j'ai face à moi en ce moment n'ont quasiment pas retiré leur casque de l'après-midi pour répondre aux inquiétudes des appelants. Certains n'ont même pas pu prendre de pause. C'est le cas de Géraldine, juste à côté de moi.
Service d'information du ministère de la Santé, Géraldine, bonjour.
Bonjour, je vous appelle parce que j'ai séjourné un petit coup à Singapour. Je voulais savoir s'il y avait des précautions particulières.
Vous êtes de retour de Singapour, hein, si j'ai bien compris. Vous n'avez pas de gêne respiratoire, hein. Alors, par mesure de prévention, on va vous demander donc de rester quelques jours chez vous, 14 jours. Surveillez votre température 2 fois par jour.
Parmi les questions les plus posées, je reviens d'un pays à risque, que dois-je faire notamment vis-à-vis des collègues? Si je reste à domicile, comment vais-je être indemnisé? Et en cas de question médicale, l'opérateur oriente plutôt vers le 15. Autant d'appels qui ont nécessité une réquisition de conseillers ces derniers jours, comme l'explique la responsable de la plateforme Nadia Benouidane.
On a renforcé donc l'équipe sur la plateforme parisienne. Et on a fait appel à nos différentes plateformes qu'on a aujourd'hui en province. Au démarrage de la cellule, on était sur un dispositif de 50 conseillers. Et là, on est monté à 90, voire 120 conseillers.
À 15h, la plateforme avait déjà reçu 10 000 appels. On pourrait atteindre le double d'ici 21h.
Hélène Terzian, depuis la plateforme téléphonique du ministère de la Santé, dont je vous redonne le numéro ce soir, le 0800 130 000.
Et une réunion est annoncée demain au ministère du Travail avec les partenaires sociaux, cette fois sur les mesures à prendre, Sébastien, dans les entreprises.
Oui, des mesures de précaution qui se multiplient. La SNCF va par exemple distribuer des masques à ses personnels de bord pour les liaisons vers l'Italie. Des grands groupes comme L'Oréal et Nestlé suspendent tous les voyages d'affaires. Et plus largement, c'est toute l'économie qui entre dans une phase d'incertitude. Ce soir, les bourses mondiales plongent. Paris en très fort recul de 3,3%. La bourse de Francfort en baisse de 3%. Londres également 3,5%. Une forte chute également à la bourse de New York, on y reviendra dans le journal de 19h. L'épidémie est à un moment décisif, a dit le directeur général de l'OMS. Le Japon prend la décision drastique de fermer par exemple toutes ses écoles publiques. Ce sont 10 millions d'élèves qui se retrouvent en vacances forcées.
Et on y revient évidemment juste après le journal avec mon invité Frédéric Valtoux, le président de la Fédération hospitalière de France, répondra à mes questions à 18h20.
C'est l'autre image de la journée et elle est spectaculaire. Un arbre déraciné en plein Paris est tombé sur une voiture quai Branly devant le musée Jacques Chirac. L'automobiliste est mort. Les vents sont très violents depuis le début de l'après-midi. Ils ont dépassé les 100 km/h dans la capitale. Prudence, on y revient bien sûr avec la météo complète d'Anissa à la fin du journal. Huawei opte pour la France pour installer un site de production d'équipements radio pour la 5G, annonce aujourd'hui à Paris du patron monde du géant chinois des télécoms. Le site, qui représentera un investissement de 200 millions d'euros au minimum, emploiera dans un premier temps 500 personnes, Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, Huawei l'avait annoncé sur Europe 1 il y a de cela quelques semaines. Il cherchait à installer une usine en Europe. Le but, contrecarrer les interdictions américaines. Vous le savez peut-être, hein, mais le groupe chinois est soupçonné par Donald Trump d'écouter les Américains, ou en tout cas de pouvoir l'écouter. Les États-Unis veulent donc lui interdire notamment l'accès à ces technologies. Huawei voulait donc, pour contrecarrer ces interdictions, accélérer son implantation en Europe. Et pour ce faire, Huawei opte donc pour la France. Ce site va produire des équipement destiné à l'ensemble du marché européen. Ce sera sa plus grande usine hors de Chine. Le lieu pour l'implanter n'est pas encore défini. En France, en tout cas, on voit cette arrivée d'un bon œil. C'est une bonne nouvelle. Ça montre que la France a retrouvé sa force d'attractivité, dit-on à Bercy. Mais on prévient aussi que ça ne favorisera pas pour autant le groupe pour obtenir des contrats, car c'est ça aussi l'autre grand enjeu. La France est en pleine réflexion pour lancer la 5G, hein, cette technologie qui va permettre notamment de télécharger beaucoup plus vite des films sur son téléphone. Mais bon, cette annonce ne saurait être totalement fortuite de la part de Huawei.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et par ailleurs, cette annonce ce soir, Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy, l'ancien patron de la SNCF, entrent et sont cooptés au conseil de surveillance du groupe Lagardère, qui est par ailleurs propriétaire d'Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Les premiers mots de François Fillon lors de son procès, des dégâts irréparables, hein, c'est ce que déplore l'ancien Premier ministre, on va l'entendre dans ce journal, votre journal de 18h.
Et puis Roman Polanski annonce qu'il n'assistera pas au César demain soir, il dénonce un tribunal d'opinion autoproclamé.
2 heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et on est entré dans le vif du sujet aujourd'hui, au procès de François Fillon, Sébastien et de son épouse.
Les questions de procédure soulevées par les avocats de l'ancien Premier ministre ont été rejetées. Place donc au fond de l'affaire, les accusations de détournement de fonds publics, les emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. Salomé Legrand, les deux époux ont été longuement questionnés aujourd'hui sur la réalité de son travail.
Et oui, en commençant par Madame, 1h15 d'interrogatoire qui laisse à tout le monde un sentiment de malaise, jusqu'au procureur qui lui a d'ailleurs exprimé sa compassion. Dans un français teinté d'accent britannique, Pénélope Fillon, bien droite à la barre dans sa veste de tailleur noir, patauge. Face au contrat signé avec son mari dans les années 80 pour l'aménagement du bocage sabolien ou l'organisation de son secrétariat, elle peine à décrire ce qu'elle a fait ou produit. Des rapports petit, 50, 60 pages, avance-t-elle. Aucun n'a jamais été retrouvé. Et comme attachée parlementaire, je faisais du travail comme Le Courrier et des petites revues de presse locales. La présidente pointe son salaire trois fois plus élevé que celui des autres collaborateurs. Le parquet financier souligne qu'elle prenait des vacances sans les déclarer et touchait les indemnités congés payés. Une réponse résonne en boucle à chaque fois. C'est mon mari qui gérait cela. François Fillon, lui, est bien plus à l'aise à la barre, animal politique qui renvoie toutes les balles avec deux arguments. Un coup, c'était conforme aux règles de l'Assemblée. Un coup, séparation des pouvoirs. La justice n'a pas à s'en mêler. Et qui frise parfois l'arrogance, sa femme ne figure pas sur le trombinoscope de son équipe. Qu'importe, les Sartois ne savent pas ce que c'est. Le trombinoscope, un truc de Parisien.
Salomé Legrand, en direct du Palais de Justice de Paris aux Assises de Saint-Omer. En revanche, le procès du braqueur Redouane Faïd n'a pas pu démarrer. L'accusé a refusé d'être extrait de sa cellule pour assister à l'audience.
Et puis une autre information judiciaire, Nordal Nolandais est mise en examen pour agression sexuelle sur l'une de ses petites cousines. Les faits remontent à 2017, elle avait alors 14 ans. C'est la cinquième affaire pour laquelle il est poursuivi.
À Strasbourg, l'enquête semble s'orienter vers un incident électrique après le très grave incendie de la nuit dernière dans le centre-ville. On vous en parlait dès ce matin, 5 morts asphyxiés par une épaisse fumée et 7 blessés hospitalisés. Enfin, la société Lubrizol est mise en examen pour les dégâts environnementaux causés par l'incendie de l'usine Seveso de Rouen, notamment pour le déversement de substances nuisibles et pour des manquements dans l'exploitation du site.
C'est tranché, il ne viendra pas. C'est Roman Polanski qui annonce ne pas être présent dans la salle demain soir au César.
Le réalisateur accusé de viol au moment de la sortie de son film J'accuse, qui est nommé 12 fois, cristallisait toutes les tensions. Bonsoir Mathieu Charrier.
Bonsoir à tous.
Polanski dit ne pas vouloir affronter un tribunal d'opinion autoproclamé. Il faut dire que la pression était maximale et jusqu'il y a peu, sa décision n'était pas prise.
Ouais, il y a encore, l'un de ses proches me disait que Polanski n'avait pas pris sa décision. Il a donc tranché dans la matinée et rédigé ce communiqué. Mais c'est vrai qu'il n'avait plus vraiment le choix. Florence Foresti menaçait de rendre son costume de maîtresse de cérémonie si Polanski était dans la salle. Et puis Adèle Haenel faisait savoir qu'elle serait bien présente demain soir, alors que lundi, elle déclarait encore dans le New York Times que récompenser Polanski, c'est cracher au visage des victimes. Alors les féministes maintiennent quand même leur manifestation prévue demain soir, car Céline Pic, la porte-parole d'Oser le féminisme, rappelle qu'au-delà de Polanski, c'est tout le milieu du cinéma qui doit faire son autocritique.
Je pense que Roman Polanski a raté le coche de MeToo, comme l'ensemble du cinéma français. Aujourd'hui encore, Valentine Monnier, la dernière des accusatrices de Roman Polanski, Valentine Monnier, on lui dit aujourd'hui, bah, finalement tout ça n'est pas grave, ce crime ne compte rien, on célèbre et on soutient de façon inconditionnelle ce violeur.
En tout cas, tout a été fait pour apaiser les esprits, éviter le pugilat demain soir avec cette absence de Polanski, mais aussi la démission du président et du conseil d'administration des Césars. Polanski qui souligne quand même dans son communiqué qu'il veut protéger sa femme et ses enfants et qui se place de nouveau en victime à travers son film. Il dit « Quelle place pourrait-il y avoir dans ces conditions pour un film dont le sujet est la défense de la vérité, le combat contre l'injustice, la haine aveugle et l'antisémitisme ?» Fin de citation.
Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1, on suivra évidemment cette cérémonie demain soir et évidemment ce qui va se passer autour. Et puis il y a un autre artiste qui quitte la scène pour cause d'accusation de harcèlement sexuel. Cette fois, c'est Placido Domingo, le chanteur lyrique espagnol, qui a demandé pardon hier à une vingtaine de femmes, renonce à chanter à l'Opéra de Madrid et dans plusieurs autres salles.